VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, il est 5h en temps universel. Bonjour à tous. Les premières estimations étaient attendues jeudi en Égypte, après 3 jours d'un scrutin présidentiel où le taux de participation est le seul véritable enjeu pour le sortant Abdel Fattah el-Sissi, assuré de l'emporter, faute d'adversaires crédibles. Les bureaux de vote ont fermé mercredi à 22h locales, soit 20h GMT, après une courte prolongation d'une heure et aucun chiffre officiel sur la participation n'avait été publié à la clôture du scrutin. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril, mais des estimations partielles devraient être publiées ce jeudi par la presse locale. Des représentants des villes libyennes de Zintan et Misrata, qui comptent les groupes armés les plus importants et les plus puissants de l'ouest du pays, se sont rencontrés hier pour la première fois depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. Misrata et Zintan étaient parmi les premières villes à se soulever contre le régime de Muammar Kadhafi en février 2011. Leurs groupes armés ont pris le contrôle de la capitale durant l'été 2011, signant la fin du régime de l'ex-dictateur capturé puis tué 2 mois plus tard dans sa ville natale de Siete. Au Niger, la justice a ordonné hier la réouverture de la radio-télévision privée Labari. Celle-ci avait été fermée dimanche soir suite aux violences de dimanche entre les policiers et des manifestants qui tentaient de protester contre la loi de finances 2018. Ima Garba, directeur administratif du groupe de médias Labari, pour sa réaction.
C'est une décision qui me réconforte un peu dans notre lutte parce que la justice a dit que la fermeture est illégale et non fondée. Et le référé demande l'ouverture dans les minutes qui suivent.
Est-ce que cela a été suivi des faits?
Non. Avant même la décision de la justice, il y a le Conseil supérieur de la communication qui s'est prononcé, qui a demandé aussi au ministre de l'Intérieur de retirer ses troupes immédiatement. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à 19h-20h. Quand j'ai quitté, ils sont encore là, parce que quand nous, le lycée leur avait brandi la brosse de la justice, ils ont tout simplement rétorqué que eux, les décisions de justice ne les concernent pas. Ce n'est pas la justice qui les a mis là-bas, ce n'est pas la justice qui va les retirer là-bas. Donc ils attendent le mot de leur hiérarchie.
Le directeur administratif du groupe de médias Labari, joint à Niamey par Timothée Donagma, et le ministre nigérien de l'Intérieur, je le rappelle, Mohamed Bazoum, avait accusé la chaîne d'avoir appelé des gens à sortir et d'avoir passé un message subversif de révolte. Un opposant kényan connu pour avoir participé à une cérémonie d'investiture symbolique du chef de l'opposition à la fin du mois de janvier a été expulsé du Kenya mercredi soir pour la 2e fois en moins de 2 mois. Monsieur Miguna avait atterri lundi à Nairobi à la suite d'une décision de justice une nouvelle fois en sa faveur, mais les services de l'immigration ne lui ont pas permis de rentrer dans le pays, insistant sur le fait qu'il avait refusé de demander un visa. Son expulsion intervient alors qu'un juge avait ordonné mercredi sa libération et qu'un second intimait aujourd'hui aux autorités l'ordre de présenter l'opposant au tribunal vendredi matin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De hauts représentants de 2 Corées se retrouvent aujourd'hui en amont d'un rarissime sommet intercoréen, quelques jours à peine après les débuts de Kim Jong-un sur la scène internationale avec une visite surprise en Chine. Le dirigeant nord-coréen doit rencontrer en avril le président sud-coréen Moon Jae-in, sommet qui doit précéder un face-à-face historique avec le président américain Donald Trump au mois de mai. Le ministre de l'Unification Cho Myung-jeon, le chef de la délégation sud-coréenne, a expliqué à la presse que fixer une date pour ce qui serait seulement le 3e sommet intercoréen était l'objet principal de la rencontre. Malala Yousafzai, la prix Nobel de la paix en 2014 et militante des droits de la femme, est de retour dans son Pakistan natal pour la première fois ce jeudi depuis qu'elle y avait réchappé à un attentat en 2012. Malala Yousafzai, accompagnée de ses parents, devrait notamment rencontrer le premier ministre Shahid Khan Abbasi durant cette visite de 4 jours. La jeune fille de 20 ans avait réchappé en 2012 à une tentative d'assassinat par des talibans. Jean-Roger Bion à ce micro, le prochain journal dans 25 minutes avec Jacques Aristide, Anne Alberson dans le cadre du magazine Le Monde aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.